prenez le là du poète, c'est que vous connaissez bien l'Ancien Testament, déjà. Parce que sinon, tout serait plat. Je pense que vous y voyez du relief grâce à l'histoire de la foi. Et donc, vous remarquez aussi l'art qu'il faut, parce que rien que pour les textiles, hier, c'était vraiment pour arriver à suggérer tout cela, parce que j'ai fait des tentatives de compréhension différentes et ça ne colle pas. Là, ça va tout seul. Pour arriver à une telle symbolique, une telle signification, il y a des contraintes extraordinaires avec les mots qu'il emploie, le poète. Et en fait, on a comme plusieurs images en une. Hein, et ça me fait penser aux petits objets qu'on avait quand on était enfant, vous certainement aussi. Avec mes frères, en fait, on avait des petits objets, on les bougeait et on voyait différentes images dans le même... Hein, c'était un effet d'optique. Et je pense que nos anciens, les juifs de l'époque, ils n'étaient pas moins malins, même s'ils n'avaient pas tous nos moyens. Quand on regarde les mosaïques d'Alexandre, par exemple, on voit qu'elles jouent du clair-obscur. C'est la lumière, l'éclairage qu'on met qui permet de voir certaines choses. Voilà. Alors, vous avez le papier sur l'homme du poème. J'ai mis colonne discrète parce qu'effectivement, il n'apparaît pas beaucoup à l'œil nu. Mais moi, j'en vois 8 évocations. Et donc, à la 4e page, vous les voyez en gras dans le texte. Le mari, eh bien, il est facile de voir quand il est question du mari. Hein. Le mot qui est utilisé, c'est Baal. Bon, on ne veut pas se scandaliser à première vue parce que c'était un mot courant pour parler du mari à l'époque plus tardive. Mais le poète peut avoir en mémoire que... l'homme avant le péché, ce n'était pas Baal, c'était Ish. Et Osée 2, notamment, dit une... alors là, c'est par rapport à Dieu, c'est le peuple qui ne dira plus à Dieu mon Baal, mais mon Ish. Donc, voilà, il peut y avoir un jeu péjoratif, une connotation ironique dans la désignation du mari, dans la tradition israélite. Mais, si vous prenez donc au verset 11, son mari... à pleine confiance en elle, le profit ou le butin, parce que le véritable mot, c'est un mot guerrier ou cultuel. C'est un mot, donc, le mari peut avoir confiance en elle parce qu'elle est battante. C'est vrai, le sens du texte dit que c'est une femme qui est sur tous les fronts. Mais en même temps, il peut compter sur elle parce qu'elle est un soutien spirituel dans l'alliance. Ça, c'est la vocation de l'épouse israélite. C'est ce que Genèse 2.3 nous apprend. La Torah met ça en note quand elle met une note à cet endroit. Et, non des moindres, un troisième point, c'est au milieu du livre des Proverbes, parce que l'auteur du poème, il compose en pensant au livre pour lequel il compose, je pense. Et donc, en Proverbe 16, il faut se fier en Adonai. Eh bien, on a vu que dans le poème, pour l'auteur, la femme était un peu comme le Seigneur. Hein. Et donc, s'il faut se fier en elle, c'est un peu comme il faut se fier en le Seigneur. Et donc, le butin, d'après l'interprète juif, ça peut être les vêtements de gloire. Mais, selon le prophète Jérémie, ça peut être aussi la vie de l'homme. Il le dit 4 fois, le butin de l'homme, c'est sa vie. Et nous sommes dans un culte qui parle des vivants. Ève est la mère des vivants dans l'alliance renouvelée. Et donc, c'est ce qui est donné par le Seigneur au temple, c'est la vie de l'homme, bien sûr, moyennant contribution sonnante et trébuchante. Et donc, dans cet endroit, Proverbe 16, on voit que le butin, il doit être laissé aux orgueilleux, mais le poète compose par inversion. De même que sa femme vaillante s'oppose à la femme dévoyée des premiers chapitres de Proverbes et qu'elle fait rappel de la sagesse, de même, le butin du poème est celui du pauvre, celui du, de celui qui est un fidèle du Seigneur. Il y a une espèce de spiritualité du pauvre ici. Je laisse le verset 23 qui parle du mari parce qu'on va bientôt en reparler. Et vous avez au verset 28, dans le stick B, ses fils, la dit bienheureuse, mais surtout son mari fait son éloge. Ah, simplement, je note que c'est un accent anti-chute. Parce que en Genèse de 3, le mari dit ben, c'est la femme et il accuse. Vous voyez ? Donc on a dans le poème, l'auteur s'est arrangé pour signifier que c'est la Genèse à l'enfer, enfin la chute renversée qui s'opère dans le culte du second temple. Mais le plus important, je crois, dans le texte, c'est l'endroit où il est question de la laine et du lin. On a déjà vu ça hier à cause des textiles, au verset 13, en la première partie, elle cherche de la laine et du lin. Mais on lit ensuite que cette femme travaille. Ses mains travaillent allègrement. On ne sait pas quoi, mais probablement c'est la laine et le lin dont il est question. Hein ? Littéralement, le texte dit « elle fait le désir de ses mains ». Et tout ça est très riche, très très riche. Parce qu'en fait, donc ce n'est pas « travailler », c'est le verbe « faire » qui est là utilisé. Comme Dieu crée, on dit « il fait », « il fit le ciel, la terre hein ». Le verbe « faire » est très utilisé dans les deux premiers récits bibliques, les deux récits création. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette femme ? Certes, elle travaille. Mais on peut même comprendre qu'elle est occupée à son travail favori. C'est comme ça qu'on peut lire. Elle fait le désir de ses mains, ce que ses mains aiment. Bon. Seulement, l'hébreu permet de comprendre qu'il y a un instrumental et aussi, il y a la préposition « be » signifie qu'elle peut travailler un matériau. Donc, on peut penser au textile. On peut la voir occupée. Vous voyez, la polysémie est là dans toute sa splendeur, vous allez le mesurer. Et si on regarde encore mieux, on voit que le désir, c'est un nom, un substantif. Ce n'est pas un adjectif. « Je fesse ». Parce que sinon, il n'y aurait pas de préposition devant, me semble-t-il. Et donc, c'est un objet, voire un être personnel. Elle travaille une personne. Et cette personne serait appelée désir ou plaisir. Et grâce au Targoum d'Isaïe 53, on sait que le plaisir du Seigneur, ce sont les serviteurs de la Torah. Merci le Targoum. Ceux qui servent la Torah, voilà le plaisir ou ce que désire le Seigneur. Et le texte dit littéralement que les mains de la femme, elles ont un désir. Le désir de ses mains, c'est les mains qui ont un désir ou un plaisir. Et les spécialistes au XXe siècle, même peut-être à la fin du XIXe, se sont un peu surpris, se sont un peu étonnés de voir que le poète parlait comme cela. Un désir de ses mains. Mais donc, si c'est le peuple du Seigneur qui est ainsi l'objet, le désir, eh bien, il est encore une fois dans une poésie qui fait une inversion, le correspondant de Sion, parce que c'est elle qui est gravée sur les paumes du Seigneur et qui est appelée mon désir et mon plaisir, Reftsi, Reftsiba. Hein ? Voilà. Donc vous voyez la richesse de ce petit stick où on a à la fois, elle s'active à ce qui lui plaît, c'est sa tâche préférée de travailler les textiles, mais en même temps, elle travaille quelque chose, voire une personne, et cette personne qui est ce qu'affectionne ses mains, si c'est comme la présence de Dieu, c'est comme, vous voyez, une composition inversée. Le poète évoque le peuple de Dieu dans la main de Dieu, mais travaillé, façonné par la présence de Dieu, par Dieu, à travers la femme. Voilà. Et donc, il faut aller jusqu'à voir cette femme qui façonne le vêtement sur son client. Et c'est pour ça que j'ai marqué Jacob, c'est chez la couturière en titre. Parce que si vous êtes déjà allé chez le tailleur, vous savez bien que le tailleur ou la couturière travaille sur ajuste sur la personne. Un veston, un pantalon, que sais-je. Bon, là, c'est une. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une tunique? Bon. Donc, on voit que cette femme, grâce à l'hébreu, elle travaille à même son client, grâce au jeu de la préposition be notamment. Et elle est donc comme le grand tailleur. Nous retrouvons Dieu qui fait les tuniques de peau en Genèse 3:21. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle peut bien travailler le client lui-même entre ses mains. Le client, vous me voyez venir, le client c'est ce fameux coquin qui a besoin d'un habit d'honneur. Et donc si elle façonne le client lui-même, elle est comme le grand potier. Le grand potier de Genèse 2:3. Mais non plus dans la configuration religieuse pré-exilique, mais dans une cosmogonie liée au Second Temple. Parce que, donc, c'est le régime de la reprise d'alliance et du renouvellement de l'alliance. C'est ce que dit la fin de Genèse 2:3 dans sa relecture sacerdotale. Mais avant ça, il y a la reprise d'alliance. Hein, donc. Et on est sous ce régime-là. C'est ce que faisait aussi hier, on a vu Siracide 17. Il tire la barre d'addition. L'humanité est créée pécheresse et mortelle. Hein, mais, donc, elle connaît le bien et le mal. Et l'alliance est éternelle. Donc, on a ici un grand potier, nouvelle manière, un grand potier post-exilique. Cette femme, ce qu'elle fait, c'est une humanité. Elle est comme en train de créer, ou de recréer, mais c'est une nouvelle création, une humanité. Et quand on voit le dernier stick du poème, on dit que ses œuvres font son éloge aux portes. Et la Tobe a vraiment tort d'avoir oublié de marquer aux portes, parce que c'est donc là le lieu de l'assemblée. Et on peut voir l'assemblée des saints qui est là en train de faire l'éloge de la femme, mais du Seigneur, ou peut-être de la Shekhina, de la présence de Dieu. Voilà. Donc on voit notre assemblée d'hommes, parce que c'était des hommes israélites, peut-être dans une synagogue, puisque c'était là que les synagogues pouvaient se trouver. Elles commençaient à apparaître, c'est très obscur, hein, le commencement de la synagogue. Et on pense que c'est du début de l'époque persane. Enfin, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais de toute façon, le culte de la synagogue est articulé sur celui du temple. C'est la même configuration religieuse, la même configuration de foi. Et ce n'est pas tout. Parce que le verbe « faire », ici, c'est le même que celui qui est utilisé pour dire que Rebecca prépare le ragoût, le régal, pour la bénédiction que doit recevoir Jacob. Vous savez qu'il va se rendre auprès de son père, Jacob, pour supplanter Ésaü dans la bénédiction. Et Rebecca est en train de préparer un régal. Et juste après, elle va habiller son plus jeune de l'habit de l'aîné. L'habit, la parure d'Ésaü, et aussi la peau des chevreaux pour qu'il soit aussi velu, le plus jeune qui est glabre, hein, qui est khal. Enfin, c'est là. On va rentrer dans les mots hébraïques. Donc, on a ici quelque chose de remarquable. Ça suggère que la tradition sur l'habit sacerdotal de l'aîné, enfin, avant Aaron, à l'époque des patriarches, hein, eh bien, on assiste ici à la transmission du vêtement sacerdotal d'Ésaü, qui est l'aîné, donc qui devrait être le prêtre, à Jacob. Donc ça confirme bien que notre poème, eh bien, il aurait en visée cette humanité refaite, est une humanité sacerdotale. Voilà. Donc, ce vêtement, qui est hybride, puisque c'est de la laine et du lin, comme dit le stick 13a, c'est la nouvelle peau peut-être. Hein, c'est ça que suggère, si elle travaille en même temps le textile, mais le client, hein, on a ici une nouvelle humanité. Et donc c'est un vêtement de gloire, un vêtement de lumière, comme disait le Père hier. Et donc c'est l'homme en présence de Dieu, mais dans un renouvellement d'alliance, une reprise d'alliance. Et donc c'est bien ce peuple que le Seigneur ne laisse pas tomber. Et il n'a plus de honte. Au contraire de l'homme de Genèse 2-3, hein, quand le serpent arrive, il y a tout un jeu sur la honte et Adam se cache. Hier, je n'ai pas eu le temps de voir ça pour la femme, mais c'était, si vous voulez, le vêtement. Il y a un jeu de mots qui dit que son vêtement de gloire, il est pour la honte. Et les pères de l'Église connaissent cette tradition, mais bien sûr, ils sont chrétiens, donc c'est très différent. Le vêtement de honte est piétiné par les catéchumènes chrétiens. Alors que le vêtement de la femme, c'est un vêtement pour la honte qui la part de gloire. Et seuls les lettrés savent que c'est un vêtement pour la honte. Eh bien, il n'y a plus de honte. Et donc, c'est ce qu'Isaïe 29 voulait, c'est que le visage de Jacob ne blêmisse plus, que Jacob ne soit plus honteux. Et voilà, c'est ça le peuple qui sanctifie le nom. Hein, le peuple qui chante la Kedusha. Et on sait que c'était anciennement une prière juive qui était dite en Shabbat et faite uniquement. C'est après que c'est devenu quotidien. Alors, bien sûr, après, vous avez l'image de la vigne. Vous voyez le temps que j'ai passé avec ce petit stick 13B. Hein, la vigne, bon, on sait que ça peut être aussi une image du peuple de Dieu. Ensuite, vous avez le cananéen. J'en ai parlé hier. Le cananéen, c'est le marchand, mais c'est aussi le coquin. Le peuple, d'abord le nordiste, puis ça devient l'israélite, même après l'exil. Donc, ça peut être l'israélite au sens post-exilique. Et donc, j'ai mis toutes les raisons de penser que le cananéen peut être notre Jacob. Et je rajoute que le mot, cette racine de cananéen, eh bien, elle a aussi une signification d'humiliation, mais au sens de s'humilier ou d'être humilié, mais donc avec derrière l'image de la courbure. Et nous en venons donc maintenant au centre du poème, au verset 20, il est deux fois question du pauvre. Annie et Évion, ce sont deux désignations du pauvre. Alors bien sûr, il y a des études sur la question du pauvre dans l'Ancien Testament, notamment celle de Jacques Dupont, quand il a étudié les béatitudes du Nouveau Testament, il a fait toute une étude sur le sens du mot pauvre dans l'Ancien Testament. C'est normal. C'est comme ça qu'on procède quand on travaille un thème du Nouveau Testament. On regarde ce que ça signifiait dans l'Ancien. C'est Jacques qui m'a suggéré de regarder Jacques Dupont pour la question du pauvre.
Et Albert Gelin qui enseignait chez nous.
Albert Gelin.
Les pauvres de Yahvé. Ah, Albert Gelin.
Voilà.
Qui est un très très beau livre qu'il a écrit pour les équipes enseignantes et les professeurs avec les théologies de Lyon.
Bon, merci. Ça me fait une référence de plus.
Oh, un très grand livre, Les pauvres de Yahvé. C'est dans l'Exode divin. Hein. Albert Gelin, Les pauvres de Yahvé. C'est dans les années 50, c'est remarquable, du point de vue philologique, assez remarquable.
Merci.
Aussi bien. Gelin.
Bon. Alors. Si on veut étoffer un petit peu ce qu'ont déjà bien étudié des gens comme Gelin et Dupont, eh bien on peut regarder par les mots crochets des textes qui nous aident à le comprendre. Et c'est ce que veulent signifier les trois paragraphes sur le psaume 68, Isaïe 23-27 et psaume 102. Je vais tout de suite, avant d'aller tout de suite à Isaïe 23, Je dis quand même en télégraphique, en style télégraphique, ce que Dupont nous aide à savoir. Il caractérise le pauvre qui est dit, enfin, avec le mot Annie, hein, et donc là c'est le courbé. Et puis le pauvre Évion, si on résume très très fort le travail de Dupont, c'est celui qui aspire à sa justice, à son droit. Parce que le puissant l'a écrasé, donc il faut qu'il ait son droit par rapport à ce puissant qui est méchant, qui l'écrase. Hein. Voilà. Donc, ce sont, vous voyez les petits dessins que j'ai faits autour de Jacques Dupont, le courbé, le petit bonhomme courbé, et puis à droite, vous avez la flèche qui signifie un abaissement, Et donc l'aspiration à être élevé. Et la balance de la justice pour celui qui aspire à son droit. Le pauvre aspire à la justice. Voilà. Donc ça vous aide à vous fixer un peu les affaires concernant la manière de penser le pauvre à l'époque. Et donc maintenant, je vais me limiter à l'Apocalypse d'Isaïe, parce que vous allez voir que c'est très éclairant. Ce sont les mots crochets qui m'ont aidé à travailler ces textes, mais l'Apocalypse d'Isaïe va suffire pour nous aider. Alors, on y voit, c'est déjà très long, hein, ça va de Isaïe 24 à 27, et on y voit, on y lit, que quand le Seigneur interviendra pour son peuple, son éclat éclipsera la lune et le soleil, la gloire du Seigneur, et il règnera en présence des anciens de Jérusalem. Représentez-vous la scène. Ces messieurs voient le Seigneur sans mourir. Bon, je vais très vite, hein, mais si vous voulez, derrière ce texte, il y a Exode 24, le festin de l'Alliance. Avant que le peuple, enfin, au moment où le peuple reçoit la Torah, et juste avant notre passage d'Exode 25 à 40, il y a le festin de l'Alliance avec les chefs du peuple et les anciens qui contemplent la gloire du Seigneur sans mourir. Et donc, l'Apocalypse d'Isaïe va parler du pauvre qui est à ce festin des anciens, hein, qui va montrer aux nations, ce festin sur la montagne va montrer aux nations que le Seigneur sauve son peuple. Et donc c'est ça qu'attend le pauvre peuple, hein, le peuple pauvre ou le pauvre qui est le peuple. Hein. Et donc il y a même une prière, ça c'est dans Isaïe, hein. Alors vous avez toutes les références en Isaïe 25, il rend grâce au Seigneur qui le fortifie. Et c'est le même mot de gloire, force que nous avons dans le poème. Pour eux, c'était tout de suite, ça faisait tilt tout de suite. C'était une gloire qui est reçue du Seigneur, une gloire qui est une force. Hein. Voilà. Et donc, nous avons, je pense, dans notre poème, une évocation de ce peuple qui est le pauvre, du peuple de l'Apocalypse d'Isaïe. Ça voudrait dire que l'Apocalypse d'Isaïe précède dans sa rédaction, sa composition, notre poème, si le poète s'appuie dessus. Et donc, il serait la nation juste, ce mari discret de notre poème, eh bien, pour un lettré israélite du Second Temple, c'était la nation juste à laquelle on va ouvrir les portes. C'est elle qui va se fier dans le Seigneur, comme le dit le début de notre poème. Vous voyez toutes les correspondances. Quand on a un mot crochet, on voit que le texte tel que celui de l'Apocalypse d'Isaïe résonne dans l'ensemble du poème. Donc il aura sa pleine intégrité à ce moment-là, ce peuple pécheur. Il sera, voilà. C'est ce que dit l'Apocalypse. Mais notre poème dit, oh, mais cela est réalisé par la charité du Seigneur au temple. C'est ce qu'elle dit, par les habits de sainteté, qui s'accorde avec la sainteté du Seigneur et celle qu'il donne en partage à son peuple, c'est réalisé. Alors il y a une chose qui est assez amusante, c'est que nous avons ici un collectif féminin. Il y a des femmes incendiaires, elles mettent le feu aux branches que Jérusalem est détruite au moment de l'exil. Mais en fait, si on regarde ce que ça veut dire, ce sont des femmes luminaires. Et leur nom rappelle la lampe perpétuelle du temple. Et les luminaires et le créateur, le grand régisseur du cosmos. L'Apocalypse d'Isaïe va jusque-là, avec ses petites dames. Donc nous avons un nouveau collectif féminin. Hier, nous avions des fileuses, de sages fileuses, avec du fil de chèvre. Ici, nous avons des femmes luminaires, mais j'ai remarqué qu'il y a des petites bonnes femmes en ribambelle, comme ça dans tous les textes que j'ai travaillés en lien avec le poème. C'est pas ma faute, je les ai trouvées à chaque fois. Hein. Et donc, on les trouve notamment dans le psaume 68, il n'y a que ça, il y a plein de petites bonnes femmes. Voilà. Donc ça peut faire une caisse de résonance, ça peut indiquer une veine rédactionnelle dans les textes des Écritures. Autre texte que je choisis parmi les quelques-uns qui sont là, il n'y en a pas des kilos, hein, donc on n'a pas beaucoup à se tromper, à mon avis. Vous avez donc le psaume 102 avec un pauvre, c'est la prière du pauvre. Alors, il paraît être tout l'opposé de notre homme qui est riche, hein, et il est discret, notre homme, alors que le pauvre du psaume 102, il se répand en plainte. Donc c'est vraiment deux figures opposées. Et pourtant, il semble que bien tous les deux aient un vêtement adéquat, un vêtement ad hoc, comme le capitaine. Parce qu'en fait, c'est un vêtement de priant, certainement, qui signifie le vêtement du faible, du défaillant, mais le vêtement pour la honte, qui est le vêtement du mari de la femme vaillante, c'est aussi un vêtement de pauvre. Et donc le pauvre liturgique pourrait bien se cacher là derrière. Et j'attire tout de suite votre attention sur les volatiles dont il est question dans le psaume 102. On a trois oiseaux. Deux qui sont tristes et qui pleurent parce qu'ils sont dans les ruines. Donc c'est Jérusalem détruite par le Babylonien. Mais on a un troisième oiseau qui est hors de son nid, c'est-à-dire qu'il n'est pas chez lui, il n'est pas dans sa maison, hein, il gémit. On entend sa voix, c'est le mot col qui est là, la voix de sa plainte. Et on comprend que le priant appelle au salut, c'est pas au secours, ça marque, ça peut être, il appelle le secours, mais c'est en fait la racine du salut qui est là, au salut. Et donc il interpelle le Seigneur, tout le psaume est jalonné d'appels comme celui-là. Et donc c'est sa foi qu'il va y avoir une reconstruction. Et donc, il est un fils de la mort. Le psaume dit qu'on a affaire à un fils de la mort avec ce pauvre qui prie dans le psaume 102. Mais dans notre poème aussi, nous avons un fils de la mort. C'est une terminologie, à mon sens, du second temple. On est tous des fils de la mort sous ce régime, mais on est tous des vivants. Hein? Donc, dans le poème, on a aussi un fils de la mort. Mais il n'est plus comme l'oiseau qui pleure, le poète, le psalmiste qui pleure, le priant, à l'heure des ruines. Il est, au contraire, déjà, enfin, les siècles ont passé, peut-être un peu, depuis l'exil quand même, et donc il fait partie des vivants ou des saints qui célèbrent, qui louent la gloire du Seigneur et qui la voient dans le temple en activité. Nous avons une théologie ici du rachat, presque de la rédemption, hein, la geoula, si on veut, hein, d'Israël sous l'économie du salut, l'économie salvatrice du second temple. Et cette façon de comprendre et de dire cette théologie cultuelle, si on peut dire, du second temple, que je vois donc ici, à travers les textes, elle fait l'objet de critiques. Et ça, c'est une confirmation de la compréhension. À la fin de Job et à la fin de Coëlette, on a la critique. Ils ne sont pas d'accord. Job, il a une toute autre perspective sapientielle. Et Coëlette aussi, vous le savez un peu. Hein, on a un audiovisuel sur Job. Et puis Coëlette, on en a parlé un peu dans le deuxième seuil, si vous avez eu quelques cours. Hein. Et donc, ça nous confirme que la compréhension du pauvre au second temple, elle n'avait pas que des gens bénis, oui, qui disaient oui. C'est très beau, c'est très grand ce que nous venons de voir. Mais on a des critiques qui ont l'air de dire, oh, nous, on ne partage pas, on ne donne pas dans ce système-là. Donc Job et Coëlette. Et c'est à ça que servent mes deux derniers petits textes. Hein. Enfin, petits. Disons que Job, je prends 29-30. Et ce qui est très intéressant, c'est que Job annonce bien qu'il va faire un machal, par l'auteur, hein, et il annonce qu'il va y avoir un machal qui n'est pas du tout simplement des sentences bien frappées, parce qu'il y a des études sur le machal, hein. Qu'est-ce que c'est que le machal? Bon, et donc il y a différents types de machal. Et donc, je pense que en Job 29-30, on a affaire à un machal qui est un peu de la même famille que celui de notre proverbe 31-10-31. Mais évidemment, dans une autre façon de voir les choses. Job dit qu'il n'est pas d'accord avec le machal qui parle des gens qui sont comme la cendre, c'est-à-dire les pécheurs, et qu'il s'oppose à ceux qui font des textes concernant l'argile. L'argile, c'est l'homme de Genèse 2-3. Et c'est aussi celui qui est visé par ce que dit Jérémie sur la poterie refaite. Bon. Eh bien, je dis, votre machal, vos méchalines, au pluriel, ils concernent la cendre, les pécheurs. Ce sont des mémoriaux, parce que les clochettes du grand prêtre, elles font ting, 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 dans le temple pour faire mémoire devant le Seigneur des Israélites. Hein. Même Job dit, ça c'est vos méchalim sur la cendre, et puis vos poèmes sur l'élévation qui concernent cette poterie d'argile. Bon, ben, moi, cette façon de voir, je ne la partage pas. Et donc, dans son machal en 29-30, il se présente comme ayant été dans l'abondance matérielle, mais aussi l'abondance sapientielle et la pureté en présence du Seigneur. Ça, on le voit bien quand on lit dans la Tobe. C'est suffisamment bien présenté par la Tobe avec les notes pour voir qu'il est question d'une situation extraordinaire. Alors, nous, ça nous paraît bizarre parce qu'il dit qu'il était dans son automne. Pour nous, les occidentaux du 21e siècle, quand on est dans son automne, bah, on est un peu décrépit déjà. Alors que non, l'automne, là, c'était la saison des fêtes. C'est Soukhot, c'est le sommet liturgique. Donc, vous voyez, on a besoin de quelques clés. Hein? Bon. Donc, et puis il dit que ses pieds étaient dans la crème blanche. Bon, bah, ouais, peut-être qu'il y a quand même des femmes qui mettent leurs pieds dans la crème pour avoir de jolis pieds aujourd'hui, mais enfin bon, quand même. Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait. Bon. Or, c'est une sagesse et une situation paradisiaque qu'il évoque. Nous, vous voyez, c'est à 100 000 lieues. Je vous renvoie au texte de Jean-Louis Desclés sur le japonais qui étudie Brassens 2000 ans après. Hein. Donc, on doit faire un déplacement culturel et de mentalité, de foi. Hein. Et donc, il est au paradis, Job. La présence de Dieu est sur sa tente. Et on voit qu'il fait justice aux pauvres comme Dieu. C'est étonnant, on a presque une icône, on a Job, et de chaque côté, il y a tous ceux auxquels il fait justice. Et donc, ça choque même très fort Maurice Gilbert. Maurice Gilbert trouve ça impudent. Il est scandalisé que Job dise qu'il est comme Dieu, parce qu'il fait justice. C'est Dieu le père des pauvres. Et c'est ça qu'il dit, Job. Il est image de Dieu, il fait justice comme Dieu. On retrouve l'image de notre mari aussi dans le poème, hein, injuste aux portes. Voilà. Donc c'était vraiment une catégorie de l'époque, du Second Temple. Et au chapitre 30, il devient pauvre. Alors il dit qu'il est courbé par Dieu. Vous voyez, on retrouve le mot courbé. Il vomit, donc il est particulièrement impur parce que ses viscères, vous voyez, se vident. Il est percé et rongé. Alors il y a les os à l'extérieur, il y a la peau, il est enserré par son vêtement qui n'est pas loin d'être sa peau, comme une chape. Hein? Et donc, il est dans un malaise. Alors, quand on le lit à l'occidental, on voit le malaise somatique, voire le malaise existentiel, et c'est réel. Très probablement, notre poète le voyait. Mais il y a aussi toute la dimension d'impureté au plan cultuel, derrière ces évocations du vomi, des os. Bon. Et il dit aussi qu'il ressemble aux cruches d'argile. Il est un des cruchons, mais il n'est pas content de l'être. Hein. Il déplore. Hein. Il ressemble aux cruches d'argile de Jérusalem. Et il regrette aussi qu'on le compare à la poussière et la cendre, parce que sa pauvreté lui fait avoir cette apparence. Hein. Il est déchu. Donc il dit, tu m'as jeté dans la boue. Bon, quand on dit que quelqu'un est traîné dans la boue, c'est au plan de la réputation. Donc ça joue aussi. Mais c'est non moins une évocation de l'humanité, une évocation anthropologique d'une humanité pécheresse. Et donc, lui, c'était pas du tout ça ce sur quoi il comptait. Il voulait, et on le lit, c'est étonnant, il pensait bien qu'il allait vivre aussi longtemps que son refuge avec un grand R. Quand il est question du phénix, encore un autre oiseau, hein, c'est le rêve de toute l'humanité, hein, la vie qui ne meurt pas. Et on voit dans son texte qu'il n'aime pas ceux qui parlent de confesser les péchés. Il ne se prête pas au jeu du système cultuel expiatoire. Alors on le voit parce que il utilise des oiseaux. Il dit « Je ne veux pas être compté comme des chacals ni comme des autruches. Or, je suis compté, je suis fils de chacal et compagnon des autruches, ou l'inverse, non, fils d'autruche et compagnon des chacals. » Mais en fait, derrière, ce sont les groupes qui disent « Donne, donne, donne-moi quelque chose, le pauvre. » Il ne veut pas être un tel pauvre qui dit « Donne, comme ça. » Donc le pauvre indigent, le vrai pauvre, et aussi le pauvre au sens religieux. Il récuse, il déplore que le fait qu'il soit déchu, selon la logique rétributive qu'on hérite du Deutéronomiste, quand on est comme ça, c'est qu'on est pécheur. Il dit, mais non, on dit que je suis un de ceux qui doivent dire donne au temple, non. Et on dit que je suis de ceux qui disent il va sauver, hein? Dieu va répondre, c'est le mot, c'est répondre. Il répondra, il va répondre, t'inquiète pas, il va répondre. Il dit, moi je ne suis pas de ces groupes-là qui disent que Dieu va répondre. Et ce qui est étonnant, je suis dépassé le temps, hein? Ben, vous lirez la fin. Ben, alors, une minute. Parce que il ne se cache pas, Job. Au paradis, Adam se cache. Mais Job, on voit bien qu'il ne se cache pas parce qu'il n'a pas de honte, parce qu'il n'a pas péché. Et donc Dieu le voit bien. Au contraire de Genèse 2:3, où Adam se cache, Dieu ne le voit pas. Il le cherche, où es-tu ? Tandis que là, Dieu le voit bien. Et pourtant, il est cruel envers lui. Et donc, il est violenté par l'acteur divin. C'est ça que dit le texte, c'est très fort. Hein, c'est un reproche de Job. Et il crie, au salut, comme le pauvre que lui-même secourait quand il était en présence de Dieu. Et il crie dans l'assemblée, mais en dehors du système cultuel expiatoire. C'est étonnant, hein? Donc, et on voit qu'il ressemble aussi à Gog. Alors Gog, c'est très intéressant, parce que vous connaissez peut-être pas beaucoup, mais Jacques a pu en parler. En Ézéchiel 38-39, excusez-moi, c'est Tyr, en 26-28. Eh bien, Gog, c'est celui qui s'attaque à Israël restauré. C'est exactement ce que fait Job par sa critique. Il s'attaque au système culturel. Et Ben Sira donne son nom et il met... La Septante a compris Oyev, ennemi. Et la note dit, ben, le traducteur s'est trompé. Il a compris ennemi, mais c'est pas ça le nom de Job. Mais il y a un jeu sur le nom de Job. Ennemi de Dieu. Alors, on peut dire qu'il est ennemi de Dieu parce que, on voit qu'il est pécheur puisqu'il est devenu pauvre. Ça, c'est les deutéronomistes. Mais, plus fondamentalement, sa pensée est ennemi du culte. Et puis aussi, il s'en prend à Dieu, il le met en accusation. Il y a plein de motifs pour lesquels Job peut être dit ennemi de Dieu. Et Ben Sira, il avait conservé ça. Cette idée que Job, c'était celui qui avait réputation d'être ennemi de Dieu. Alors, je dis qu'il est noir comme la fiancée du Cantique, vous lirez. Et je dis qu'en Coëlette, on a une autre critique. On vient de voir celle de Job. Coëlette, à sa façon... Il est en train de dire aussi qu'il est opposé à ce que chante Proverbe 31. Et là, on voit des hommes vaillants. Il dit, attention les hommes vaillants, ils vont devoir se courber à nouveau, comme ils l'ont fait au moment de l'exil. On a des meunières, encore des petites dames. On a la belle du foyer, et on a surtout le chant de l'oiseau et les filles du chant qu'on retrouve, le chant de l'oiseau. Il va falloir que celui qui était près des ruines, il se lève à nouveau pour prier ce chant. Et les filles du chant, Elles vont non plus être glorieuses et belles et vaillantes, mais elles vont devoir à nouveau s'humilier. Et donc, c'est une manière de dire que l'ordre du second temple, il est fragile. On pourrait bien connaître une nouvelle destruction.
Bon, merci. Est-ce que ça vous va si on prend 3 minutes pour, un peu comme hier, pour un peu descendre?